Il y a des choses qui ont été posées qui sont vraiment un préalable très important et que je voulais nous rappeler pour qu'on y soit attentif, parce que je crois que le Seigneur a parlé et a préparé nos cœurs ce matin. Il nous a rappelé qu'il était celui qui fait avec nous une alliance parfaite. Et que cette alliance parfaite, elle est en Jésus-Christ. Et que cette alliance, elle est tellement parfaite que Dieu pourvoit même pour nos manquements à l'intérieur de cette alliance. Et ça, c'est un préalable que je voudrais qu'on pose ce matin et que je voudrais qu'on tienne dans nos cœurs. La grâce de Dieu est suffisamment parfaite pour que nous puissions bénéficier de l'alliance parfaite avec Dieu. Et laissons ces choses-là s'écrire dans nos cœurs parce que c'est pas juste quelque chose de facile, c'est pas juste quelque chose sur lequel on doit pouvoir passer rapidement, de réaliser à quel point, bien sûr qu'on a des manquements. Bien sûr qu'on tombe, bien sûr qu'on pêche, mais Dieu a pourvu pour ça, dans une grâce absolument parfaite, dans un temps absolument parfait, pour que nous soyons bénéficiaires d'une alliance avec lui qui est absolument parfaite. Amen. J'ai fini mon message. Non, c'est pas vrai. Non, tu n'es pas obligé de partir, Julie. Tu peux rester. Je vous invite à prendre vos Bibles électroniques ou papier. Dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît, j'ai un passage à lire, j'aimerais bien que vous l'ayez peut-être sous les yeux, ce sera plus facile. L'évangile de Luc, c'est dans le Nouveau Testament, dans le début, c'est entre Marc et Jean, au chapitre 7. C'est entre le chapitre 6 et le chapitre 8. Luc, chapitre 7, je meuble, hein, comme ça vous avez le temps. Luc, chapitre 7, et puis on va lire à partir du verset 36, qui est après. Le verset 35. Je vois que vous suivez. Une histoire que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous certainement par cœur. Luc 7, 36, et puis on va aller jusqu'au verset 50. C'est pour ça que je trouve que si vous avez un support, c'est plus sympa. Un pharisien, qui s'appelle Simon, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel tu as le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc une histoire que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. On l'a déjà lu, on est déjà passé dessus très certainement dans vos histoires, peut-être ceux qui sont chrétiens depuis moins longtemps, c'est la première fois que vous l'entendez. Cette histoire, j'avais quand même à cœur qu'on y plonge ce matin, parce qu'elle nous parle de quelque chose qui me semble important, important qu'on se rappelle en permanence, important qu'on garde toujours à l'esprit dans notre marche quotidienne, quelque chose auquel on doit veiller en permanence, c'est notre cœur. Cette histoire, elle nous parle de notre cœur. Et Proverbe 4, 23 nous dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a une promesse qui est attachée au fait de veiller à notre cœur, à notre intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et moi, ça m'amène cette question ce matin. Avec quel cœur est-ce que nous faisons les choses ? Avec quel cœur est-ce que nous avançons jour après jour ? C'est quoi la source qui jaillit au fond de nos cœurs et qu'est-ce qu'elle produit dans nos vies ? Et je voulais qu'on prenne du temps ce matin, c'est vraiment un message qui va être très individuel, d'accord ? C'est pas un encouragement collectif, mais je voudrais qu'on prenne du temps pour aller regarder dans nos cœurs ce matin. David, dans la parole de Dieu, le roi David, le grand roi David, il a menti, il a tué, il a monté un stratagème pour prendre la femme de son ami en envoyant son ami se faire tuer au combat. Sympa, hein ? Parce qu'il trouvait que sa femme était belle et qu'il voulait la prendre pour femme. Voilà. Et pourtant, David, dans la parole de Dieu, il a été honoré. Il a été pardonné et il a été honoré. Et il est même dit à son propos que Dieu trouvait en lui un homme selon son cœur. Il est bizarre le Seigneur. Hein ? Pourquoi ? Ben, quand on traverse l'histoire de David, on connaît son cœur. Et on sait que le cœur de David, c'était de s'humilier devant son Dieu, de se soumettre à son jugement. Il acceptait la condamnation ou le pardon de Dieu. Il était soumis à ce que son Seigneur dirait. Et il connaissait, il reconnaissait sa dépendance à son Dieu. Voilà le cœur de David. Et au-delà de ce que David a fait concrètement, son cœur restait humble, soumis, repentant devant son Dieu. À côté de lui, il y a Saül. Saül, il a juste fait quelque chose de complètement anodin. Saül, il a simplement pas attendu Samuel, qui tardait à revenir en fait, hein, et Samuel qui devait présenter le sacrifice avant que le peuple entre dans la bataille. Et Saül, il a décidé de faire le sacrifice lui-même, alors qu'il n'était pas le sacrificateur. Il a choisi de faire le sacrifice lui-même au nom du peuple pour s'assurer la victoire, pour s'assurer que Dieu serait avec eux dans cette bataille et qu'ils auraient la victoire. Sincèrement, ce n'est pas quelque chose de vraiment grave. Comment nous, on jugerait ces choses-là ? C'est quelqu'un qui dit « Mais Samuel ne vient pas, on ne peut pas aller combattre sans avoir consulté l'Éternel. Je vais faire le sacrifice pour consulter l'Éternel. » Et pourtant, quelque chose d'apparemment anodin, et pourtant Saül, il est condamné dans la parole de Dieu. Il est condamné par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'est pas question de ce qu'il a fait concrètement. Il est question du cœur avec lequel il a fait ces choses-là. Et le cœur de Saül, au moment où il fait ce sacrifice, c'est un cœur qui est orgueilleux. Il veut s'assurer la victoire. Il veut marcher selon son rythme. Il ne veut pas se soumettre au fait que Dieu avait établi Samuel pour faire cela. Il avait établi un ordre et il n'a pas voulu attendre. Il a voulu forcer la main de Dieu et s'assurer la victoire, faire les choses selon ses désirs à lui. Et derrière ces choses-là, il s'est justifié. Il n'a pas reconnu sa dépendance à Dieu. Il a justifié son péché. Il ne s'est pas repenti. Et voilà toute la différence entre David et Saül. David, qui a fait des choses gravissimes, a été trouvé avec un cœur repentant devant Dieu. Et David a été pardonné. Et Saül a été trouvé avec un cœur orgueilleux. Un cœur qui n'a pas accepté de plier devant Dieu et devant la loi de l'Éternel. Et il a été condamné. Et c'est ce dont je voudrais qu'on parle ce matin, c'est de la repentance. Je voudrais parler de ce que c'est qu'un cœur repentant, parce que cette histoire, elle nous en parle. Je voudrais qu'on se souvienne que Dieu, il est le seul qui sonde, il est le seul qui juge les cœurs. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas juger la repentance les uns des autres. Nous ne pouvons pas juger le fond du cœur les uns des autres, mais Dieu peut le faire. C'est Dieu qui sonde, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui condamne. Il est Dieu et il peut le faire. Et Dieu, il est davantage préoccupé par le cœur avec lequel nous faisons les choses que par les choses que nous faisons concrètement. Et ça, marquons-le dans nos cœurs. Dieu est plus préoccupé par notre état de cœur alors que nous faisons des choses, y compris des choses qui sont bien en apparence, que par ce que nous faisons réellement. Est-ce que je prêche devant vous parce qu'en fait, au milieu de cette église, j'ai une place sociale, un statut, je suis reconnu, je suis aimé, apprécié et je trouve finalement une nourriture pour mon orgueil? Au fond, je suis devant vous en train de prêcher. Est-ce que je le fais parce que je suis obéissant au Seigneur, parce que je crois qu'il m'appelle à ça, parce que je crois qu'il me parle pour vous ce matin, pour nous, parce que je suis enseigné par ce message aussi? Est-ce que j'ai un cœur qui désire faire la volonté de Dieu? Dans les deux cas, je vais prêcher devant vous. Mais dans les deux cas, mon cœur ne sera pas le même. Et dans mes erreurs, il y a des choix qu'on fait, on sait pertinemment qu'on est en train de faire un mauvais choix, mais on s'entête dans nos cœurs. Il y a d'autres fois, on fait des erreurs, alors que notre cœur, il voulait juste obéir au Seigneur et qu'on s'est trompé. Ben dans les deux cas, ça ne se passe pas pareil. L'état de notre cœur n'est pas le même et Dieu ne fait pas la même chose avec nous. Ok, vous comprenez ça? Vous êtes avec moi là-dedans? Dieu regarde à nos cœurs plus qu'à ce que nous allons faire. Et ce principe, il est vraiment au cœur de l'histoire là, qu'on regarde ensemble ce matin. Et ça doit nous encourager à trois choses pour moi ce matin. C'est ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ce qui sera la conclusion de ce message. Ça doit nous encourager à ne pas avoir l'apparence de la piété seulement, mais à garder un cœur qui est humble et qui est soumis à Dieu. Ça nous parle de ça, l'histoire de ce matin, d'avoir un cœur repentant qui produit l'humilité. Ce sera mon point numéro un. Ça doit nous encourager aussi à ne pas nous contenter d'être de bons chrétiens qui ne font pas trop de bêtises, mais à reconnaître notre besoin de pardon de Dieu en Christ tous les jours. Et c'est ce dont nous parle cette histoire. Un cœur repentant recherche le pardon de Dieu. Et ce sera mon point numéro 2. Et enfin, cela doit nous garder de la religion. Et ça doit nous encourager à aimer Dieu de tout notre cœur et à rechercher un amour brûlant, un feu dévorant au fond de nous, une passion pour lui. Et c'est aussi ce dont nous parle l'histoire qu'on a lue ensemble ce matin, à savoir qu'un cœur repentant aime Dieu passionnément. Et ce sera mon point numéro 3. Ok ? Je vous donne la conclusion dès le départ. Donc la repentance, parce que je voudrais commencer par le commencement. La repentance, elle répond à la foi, d'accord ? Je commence par le commencement parce que dans l'histoire de ce matin, ça revient à commencer par la fin, d'accord ? Quand Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Et ce que je voudrais dire, c'est que même si ça arrive à la fin de l'histoire, même si Jésus dit ta foi t'a sauvée uniquement à la fin, la foi n'est pas une conséquence de ce que la femme a fait, elle est la cause de pourquoi cette femme a eu un cœur brisé et est venue trouver Dieu. La repentance de cette femme, elle vient en réponse à sa foi qu'elle avait dans le fait que Dieu pardonne, que Dieu sauve. C'était une femme pécheresse, son cœur était lourd. Elle avait foi dans les commandements justes de Dieu et dans le salut qui se trouvait en Jésus, dans ce maître qu'elle était en train de reconnaître avant même qu'il ait été crucifié et ressuscité. Et cette femme qui s'approche de Jésus, qui vient mouiller ses pieds de ses larmes, qui les sèche à l'aide de ses cheveux, qui verse sur eux une huile parfumée de grand prix, elle n'est pas repentante parce qu'il le faut, mais parce qu'elle a foi dans le pardon qu'elle peut recevoir en Jésus. Et Jésus ne pardonne pas parce qu'elle a aimé, mais à cause de sa foi. Donc la foi est à l'origine de tout et ça questionne ce en quoi nous croyons. Et la vision et la compréhension que nous avons de qui est Dieu et de quelle valeur a le sacrifice de Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de repentance sans parler d'abord de ça. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de cette alliance parfaite que Dieu a faite et pour laquelle il a pourvu pour nos manquements à l'intérieur de cette alliance-là. Amen. Donc, j'arrive à mon point numéro 1. Un cœur repentant produit l'humilité. On sait peu de choses à propos de cette femme dans ce récit, mais on sait de façon certaine quel est son statut dans la ville. Il est dit que c'est une femme pécheresse, connue dans la ville pour ce qu'elle faisait de mal. Et c'est certainement une femme prostituée et une femme qui avait une vie de prostitution relativement visible et abondante parce qu'elle était connue pour ça. C'est vraiment à peu près ce qu'on connaît de cette femme. Et elle vient à Jésus, pourquoi ? Elle vient à Jésus parce qu'elle est brisée. Elle est brisée par le poids de son péché, mais elle est repentante. Et elle vient témoigner son amour à Jésus, elle vient témoigner son amour à son maître. Un amour, et on le verra un petit peu plus loin, qu'elle ne s'estime même pas pleinement digne de témoigner. Et elle reste vraiment en retrait, tant son cœur est lourd, tant son cœur est brisé par le poids du péché qu'elle a témoigné jour après jour dans sa vie. En fait, elle est tellement humiliée par Dieu, elle est tellement humiliée par le poids de son péché vis-à-vis de la loi de Dieu qu'elle ne se préoccupe même plus de l'humiliation des hommes qui la voient agir et qui la jugent. Elle peut se déplacer librement, elle peut marcher librement, elle peut rentrer dans cette maison librement, elle sait qu'elle va être jugée, mais peu importe. Elle est déjà écrasée par le jugement divin sur son péché. Elle est déjà totalement humiliée parce qu'elle réalise ce péché et qu'elle s'en repent. Peu importe le regard des autres, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Voilà ce que produit la repentance. Un cœur totalement humble. Il n'est plus question d'elle. Il est question de Jésus. Il est question de l'honneur qu'elle veut lui donner. Il est question du pardon qu'elle trouve en lui. Il est question de « c'est mon bien le plus précieux, je n'ai plus rien d'autre que ça ». Et donc la vraie repentance, elle doit produire ça dans nos vies. La vraie repentance, elle doit produire de l'humilité. Que je croisse, que tu croisses Seigneur et que je diminue, ce n'est pas juste des belles paroles. Et plus nous allons regarder à notre péché, mais de la bonne manière, plus nous allons avoir un cœur pleinement repentant, et plus nous allons être humbles. Et plus nous allons voir Dieu grand. Jésus, il était probablement à demi couché, hein, selon l'usage de l'époque. Il était probablement à demi couché, appuyé sur des coussins, hein, sur un divan, en train de manger. Et puis ses pieds, ils devaient être nus et étendus en arrière. Là, vous l'avez la scène, voilà, couché sur un divan, les pieds en arrière. Et donc cette femme, et en plus de ça, à cette époque-là, je crois qu'il pouvait manger dehors, devant les maisons. Donc c'était beaucoup plus facile pour elle pour s'approcher, même si elle n'était pas invitée. Et cette femme, elle pouvait donc ainsi s'approcher et se tenir derrière lui, se tenir à ses pieds. Ça a été facile pour elle d'arriver là. Elle n'a pas dû passer des gardes ou des quoi que ce soit, ou des portes ou tout ça. Et elle était probablement agenouillée. Elle prononce pas une seule parole, mais son cœur, il est plein d'humiliation et de douleur. Et il se répand en larmes abondantes qui tombent sur les pieds de Jésus. Ses cheveux, ils sont dénoués et ils pendent et partent. Et ça, c'est un signe de deuil, c'est un signe visible de l'état de son cœur, de l'état repentant de son cœur. Elle porte le deuil et elle s'en sert pour essuyer les pieds du maître et elle les baise avec vénération. Elle voudrait l'honorer en répandant sur sa tête le parfum dont elle s'est munie, parce que c'est l'usage, mais comme elle n'ose pas élever ni ses mains ni son regard jusqu'à la tête de Jésus à cause du poids de son péché, elle se contente juste de oindre en silence ses pieds. Quel respect, quelle reconnaissance, quel amour déborde de l'acte qu'elle est en train de réaliser maintenant, la réponse à son cœur brisé et repentant. Et donc oui, la vraie repentance, elle produit l'humilité, les amis. Et il n'y a plus de masques derrière lesquels se cacher. Et je voudrais que ça nous encourage à être conscient de nos péchés, bien sûr, que ça nous encourage à être repentants, que ça nous encourage à être humbles, à être vrais devant Dieu, mais à être aussi vrais les uns devant les autres. Je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, mais j'aimerais que ça nous encourage aussi à ça. Soyons vrais les uns avec les autres. Éphésiens 4, 25 dit « C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Bas les masques, les amis, bas l'orgueil. Je poursuis. Un cœur repentant recherche le pardon. C'était mon point numéro 2. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Nous tous y compris. La femme pécheresse, elle était consciente de son péché et elle était consciente de son besoin du pardon de Dieu. Et Simon, le pharisien dans cette histoire, en revanche, lui, il était satisfait de sa condition d'homme pieux. Voilà l'état de cœur dans lequel lui, il était. Souvenez-vous que Dieu est celui qui sonde les cœurs. Il n'avait pas ou alors peu conscience du besoin de pardon et il se permet même de juger cette femme pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait, pour sa légitimité à venir toucher Jésus comme elle est en train de le faire. Il juge même Jésus, qui semble apparemment pas vraiment prophète puisqu'il n'est pas au courant de ce qu'est cette femme. Il se place au-dessus de cette femme, il se place au-dessus même de Jésus en se permettant de prononcer un jugement à l'intérieur de son cœur sur l'un et sur l'autre. Et Jésus, en réponse, pour confronter son cœur, il répond par une parabole. Il l'interpelle par rapport à la parabole du créancier de ses deux débiteurs. Il y en a un qui devait peu d'argent, un autre qui en devait beaucoup. Et puis le créancier, il remet de la même manière, il remet la dette à chacun. Il l'interpelle. Lequel était le plus reconnaissant ? Et c'est normal, bien sûr, qu'on répond, mais celui qui devait énormément d'argent devait avoir une reconnaissance forcément plus grande. Oui. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Celui qui sait que sa dette est la plus lourde et qu'elle lui est remise, est forcément celui qui sera le plus reconnaissant. Est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que ça veut dire que Simon était peu pardonné parce qu'il avait peu péché ? Je ne crois pas que ce soit le cas. C'est plutôt qu'il ne sentait pas dans sa conscience le poids de son péché et qu'il ne s'en humiliait pas parce qu'il était content, satisfait de ce qu'il était. C'était un bon chrétien, même si ce n'était pas ça à l'époque, mais si on le transpose, d'accord ? C'est un bon chrétien qui ne fait pas trop de bêtises, il marche plutôt droit. Il ne fait pas de vagues, il veut obéir aux choses. Et combien de fois on s'estime digne par nous-mêmes et digne par ce qu'on fait ? Combien de fois on s'estime qu'on n'a plus besoin du pardon tous les jours ? En se comparant à la loi, on peut reconnaître, on peut sentir tel ou tel péché dans nos vies, on peut s'en repentir, on peut demander pardon et on peut obtenir ce pardon. Merci Seigneur, il a pourvu Jésus-Christ pour nous. Mais si nous considérons ce péché comme un fait extérieur, isolé dans nos vies, pas grave, si nous sommes condescendants vis-à-vis du péché, si nous sommes... Ouais, si nous estimons que ce n'est pas très grave, en fait, si nous ne sommes pas radicaux par rapport à ces choses-là, si nous ne sommes pas conduits à découvrir dans nos cœurs notre corruption, ça c'est bien le cas dans nos cœurs, notre corruption qui est source de tous nos péchés, nous allons trouver le pardon uniquement dans la mesure de notre repentance. Et là, je ne suis pas en train de parler du pardon suprême, je ne suis pas en train de parler du salut. Je ne suis pas en train de parler du fait que Jésus nous a sauvés, que le Père a choisi que ce soit comme ça. Quand nous proclamons le nom de Jésus, quand nous reconnaissons qu'il est sauveur et Seigneur de nos vies, qu'il est mort pour nos péchés, que nous avons besoin de lui pour être sauvés, je ne parle pas de ce pardon-là absolu qui est obtenu en Christ. Bien sûr que celui-là, il est certain. Je parle de l'autre pardon, celui dont on a besoin jour après jour, parce qu'on est sauvé en espérance. Et parce qu'on continue de marcher tordu, parce qu'on continue de tomber, parce qu'on continue d'avoir des désirs qui sont contraires à la parole de Dieu, pour toutes ces choses-là, nous avons besoin d'être repentants. Pour toutes ces choses-là, nous avons besoin d'avoir conscience, parce que nous sommes repentants, que nous avons besoin de demander pardon. Parce que Dieu est Dieu, parce que nous sommes nous, parce que toutes les fois où nous salissons cette alliance, nous avons besoin de demander pardon. Soyons radicaux, s'il vous plaît. Je ne veux pas faire un message légaliste ce matin, mais je voudrais nous encourager à ne pas transiger avec ce que nous savons être des travers de nos vies, avec ce que nous savons être des défauts profonds qui sont contraires à la parole et qui sont donc des péchés. Ne transigeons pas avec le péché dans nos vies, les amis. Pas parce qu'il le faut, mais parce que nous avons la foi. En tant que pécheurs, on doit reconnaître notre misère à la froideur de nos cœurs, quand on est impénitent, quand on est orgueilleux, quand on est étranger à l'amour de Dieu. Jamais on n'aimera profondément Dieu si notre repentance, elle ne devient pas plus profonde, plus douloureuse. Et si l'amour infini de Dieu ne nous est pas personnellement révélé par le pardon complet de tous nos péchés, ne craignons pas, les amis, de regarder notre péché. Pas pour nous condamner. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas faire un message légaliste ce matin. Mais regardons notre péché, pas pour nous condamner, mais pour reconnaître notre profond besoin du pardon de Dieu. La repentance produit l'humilité et la repentance conduit au pardon. Et je voudrais terminer là-dessus. Un cœur repentant aime Dieu passionnément. On a vu tout à l'heure que le contentement du pharisien vis-à-vis de son apparente et suffisante piété, on a vu ça et on a vu comment ça l'empêchait de reconnaître le besoin du pardon de Dieu. Et de la même manière, ce contentement dans sa suffisante religiosité le conduit à manquer d'honneur envers Jésus. C'est aussi une conséquence dans cette histoire de l'état de son cœur. Il invite Jésus chez lui. Il reconnaît en Jésus quelque chose de particulier. Il veut l'avoir avec lui. Ce n'est pas qu'il est complètement insensible et qu'il se retrouve par hasard en face de Jésus. Il l'invite dans sa maison pour l'avoir à sa table. Et alors que Simon, il est en train de porter, comme on le disait tout à l'heure, un jugement sur la femme pécheresse, Jésus commence à le confronter de manière volontaire avec ces mots « Je suis entré dans ta maison ». Je suis entré dans ta maison. Et il est en train de rappeler à Simon que Jésus lui a fait un honneur que Simon ne lui a pas rendu. Et Simon, il a manqué par trois fois aux attentions avec lesquelles il aurait dû recevoir dans sa maison, selon les usages de l'époque, un hôte qu'on voulait honorer. D'abord, il aurait dû lui faire présenter par un esclave de l'eau pour se laver et se rafraîchir les pieds. Pourquoi ? Parce que la chaleur du climat et puis l'usage à l'époque de ne porter que des sandales, ben, c'était bienfaisant. C'était bienfaisant de pouvoir se rafraîchir et se laver les pieds, c'était même nécessaire. Et le pharisien, il avait négligé cet honneur-là. Il l'avait négligé. La femme pécheresse, au lieu d'eau, elle a offert ses larmes. Ses larmes. Et elle a lavé, mouillé, lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, Simon aurait dû recevoir son hôte en lui souhaitant par un baiser la bienvenue. Et le mot signifie amitié, affection. C'est vraiment tout ça qu'il y a derrière la notion de baiser qu'on trouve à ce moment-là dans l'évangile de Luc. Et tels sont les sentiments qu'on voulait témoigner en accueillant un hôte qu'on voulait honorer. Témoigner son amitié, témoigner son affection, témoigner du désir de son cœur d'avoir cette personne-là avec nous. Et les premiers chrétiens, ils avaient conservé cet usage des Israélites, et c'est une bonne chose, et c'est bon qu'on continue de conserver cet usage-là. Saluons-nous par un vrai baiser du cœur, par une vraie salutation affectueuse et accueillante les uns des autres. Honorons-nous de cette manière-là. Et Simon, il n'a pas donné à Jésus cette marque de respect. Il n'a pas donné à Jésus cette marque d'affection. La pécheresse, elle, avec autant d'humilité que d'amour, elle lui a baisé les pieds. Vous voyez le contraste entre ces deux cœurs. Puis en Orient, là où la chaleur et les vents sont brûlants et puis dessèchent la peau, les cheveux, on éprouvait effectivement le besoin de oindre d'une huile parfumée. C'était un soin agréable qui permettait d'entretenir et la peau et les cheveux, le cuir chevelu aussi. Et ici encore, on trouve le même contraste entre la conduite de Simon et celle de la femme. Le premier n'a rien fait, mais la seconde, elle a dépensé tout son argent pour oindre ne serait-ce que les pieds du maître. Elle n'a même pas osé aller jusqu'à sa tête. Et on peut en conclure, l'amour qui anime l'un et l'amour qui anime l'autre. La vraie repentance, quand on comprend vraiment l'état dans lequel on est, quand on comprend vraiment le besoin de pardon et comment ce pardon, il est complètement satisfait en Jésus-Christ, ça nous pousse à honorer, ça nous pousse à aimer en retour. Ça nous pousse à exprimer tout notre amour de manière passionnée, de manière désintéressée, simplement parce que Dieu en est digne. Parce qu'il est digne, c'est ça la réponse d'un cœur pleinement repentant. L'autosuffisance, la religiosité, l'orgueil, elles vont nous empêcher de voir notre péché, elles vont nous empêcher de voir notre besoin de pardon et l'absolue rédemption nécessaire que nous devons trouver chaque jour dans le sacrifice de Jésus qu'il a accompli à la croix. La repentance de nos cœurs, les amis, de la même manière que cette femme pécheresse, elle l'a démontré, doit nous conduire à honorer Dieu et à aimer Dieu encore plus passionnément. Ça peut nous paraître des fois barbant, légaliste, de rappeler le péché, de rappeler, regardons nos cœurs. Mais je crois que alors que nous faisons ça, ça nous amène à lever les yeux, au contraire, sur celui qui est l'auteur du salut, sur celui qui est l'auteur du pardon. Ça nous amène à louer, ça nous amène à adorer, ça nous amène à rendre gloire, ça nous amène à dire, oui Jésus, toi tu es celui qui est élevé dans ma vie, non pas moi mais toi. Je crois que c'est très important ce qu'on se dit ce matin. Et je vais conclure par ce que j'ai dit au départ. De cette rencontre de Simon, le pharisien, avec Jésus, et puis de cette rencontre de la femme pécheresse avec Jésus, je crois qu'on peut en tirer un enseignement pour nos vies ce matin. Un encouragement à garder dans nos cœurs ces trois principes. Un cœur repentant produit l'humilité. N'ayons pas l'apparence de la piété seulement, mais gardons un cœur humble, un cœur soumis à Dieu et aux autres. Deuxièmement, un cœur repentant recherche le pardon. Ne nous contentons pas, les amis, d'être de bons chrétiens, entre guillemets, satisfaits de marcher plus ou moins droit. Mais à l'inverse, reconnaissons notre besoin de pardon, reconnaissons notre besoin de Christ et ce qu'il pourvoit pour nous tous les jours. Et enfin, troisièmement, un cœur repentant aime Dieu passionnément. Et gardons-nous de la religion qui est tiède. À l'inverse, encourageons-nous à vivre passionnément pour Dieu et à l'aimer passionnément. Et je vais finir par là, Matthieu 6, 21 nous dit « Car là où est ton trésor ?» Là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, Dieu est-il un trésor suffisant pour que notre cœur y reste attaché? Je prie que ce soit le cas, hein, pour chacun de nous. Et si c'est difficile, demandons l'aide du Saint-Esprit. Parce que Dieu a même pourvu pour ça, dans cette alliance parfaite. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Si nous avons du mal à apprécier pleinement le trésor, la préciosité de Christ dans nos vies, cette absolue valeur ultime, demandons l'aide du Saint-Esprit. Il est celui qui révèle. Il est celui qui fait crier depuis nos tripes et depuis nos cœurs ce « Abba, Père !» Nul autre que toi n'est digne de gloire. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu ne se cache pas pour celui qui le cherche. Alors si ce matin, tu galères avec ce que je dis, ouvre tes mains, ouvre ton cœur et demande à Dieu de faire son œuvre de manière humble, tout simplement. Et crois qu'il va le faire. Crois qu'il va le faire, de sorte que nous tous, nous restions humbles, toujours prêts à recevoir le pardon et pleins d'un amour brûlant pour la gloire de celui qui en est digne, notre Dieu. Amen. Amen.